Un air d'actu avec Serge Carrel.
Il préside aux destinées de la Fédération évangélique neuchâteloise, la FEN. Il est aussi pasteur évangélique et sociologue. Alors que le 26 septembre, les Neuchâteloises et Neuchâtelois se prononceront à propos de la loi sur la reconnaissance d'intérêt public des communautés religieuses, il est notre invité à l'enseigne d'un air d'actu. Olivier Favre, bienvenue.
Merci pour l'invitation.
Alors, vous êtes le porte-parole de la Fédération évangélique neuchâteloise. Vous êtes pasteur au centre de vie à Neuchâtel. Comment est-ce que vous vivez ce débat autour de cette loi sur la reconnaissance des communautés religieuses et notamment des communautés évangéliques sur Neuchâtel?
Ah, c'est une étape importante parce qu'on a déposé une demande de reconnaissance dans la foulée de l'adoption de la nouvelle Constitution il y a une vingtaine d'années.
Oui, ça c'était en l'an 2000, hein?
La Constitution, et nous, on l'a déposée en 2002. Les années ont passé, on a renouvelé, réitéré la demande, et il a fallu attendre un conseiller d'État qui a eu la motivation pour faire avancer les choses et mettre l'ouvrage sur le métier pour qu'une loi soit proposée, ce qui est le cas aujourd'hui. Et donc, c'est une étape importante. Je ne peux pas dire que c'est l'aboutissement parce qu'on ne sait pas... De quel sens penchera la balance, mais en tout cas, c'est une étape.
Alors, il y a quelque chose qui est reproché à cette loi, c'est le fait qu'il y ait, dans ce cadre-là, une sorte de déni de démocratie, parce que la loi ne requiert pas systématiquement une votation populaire sur la reconnaissance d'une communauté religieuse particulière. Alors, vous-même, comment est-ce que vous réagissez par rapport à cette objection à cette loi ?
Alors, c'est sûr que ça fait l'objet de grands débats au niveau du Grand Conseil. Et le Grand Conseil, à la majorité, a estimé que le projet de loi avait toutes les garanties démocratiques nécessaires, dans le sens que un tiers des députés peut demander que la reconnaissance passe par un référendum.
Donc ça, c'est une trentaine de députés qui peuvent déposer une sorte de motion, c'est ça, demandant le passage devant les urnes.
Voilà, c'est ça. Donc, ça, c'est quand même une garantie que si une communauté religieuse pose question, un tiers des députés suffira pour que, éventuellement, le projet n'aboutisse pas en passant par le peuple. L'idée des députés de ne pas le faire d'office, de ne pas le faire de façon systématique, c'était aussi pour éviter une récupération éventuellement émotionnelle ou populiste, ou tout simplement d'avoir un effet un effet très à court terme en lien avec les actualités, par exemple internationales, d'une certaine période donnée et qui pourrait orienter le vote dans un sens ou dans un autre. Donc l'idée, c'était, il faut bien voir que ce type de démarche de reconnaissance va s'étaler sur les années pour une communauté religieuse. Ça peut prendre jusqu'à 5 ans, d'après ce qu'on nous dit. Et c'est vrai que si quelques semaines avant la votation, mettons que...
Il se passe comme actuellement quelque chose de fort en Afghanistan, voilà. Où tout à coup des talibans reprennent le pouvoir. Eh bien, on pourrait imaginer que la population, si c'était la communauté musulmane qui devait être reconnue, eh bien la population dise clairement non.
C'est ce qui risquerait d'arriver. Et on peut imaginer une communauté musulmane qui soit tout à fait en accord avec l'état de droit tel qu'on l'imagine en Suisse, c'est dans le canton de Neuchâtel. Mais effectivement, suite à des attentats près de chez nous, la reconnaissance de cette communauté serait fortement remise en cause, alors qu'elle ne le serait pas 6 mois avant ou 6 mois plus tard. Donc c'était un peu pour éviter le côté émotionnel. Maintenant, on peut aussi comprendre que certains partis estiment que fondamentalement, c'est une décision qui relève du peuple. Surtout que les églises actuellement reconnues, elles le sont d'un point de vue historique. Elles sont enracinées jusqu'à un certain degré dans la population, dans l'histoire, enfin comme c'est le cas en Europe en général et en Suisse. Il n'y a rien d'étonnant à cela. Mais c'est vrai que ça participe de l'histoire d'un pays, de sa culture, de ses valeurs. Et donc, c'est forcément émotionnel.
Donc, finalement, vous-même, vous n'êtes pas tellement gêné par le fait que toute communauté religieuse qui sollicite cette reconnaissance d'intérêt public soit quelque part avalisée par le peuple.
Non. Pour nous, ce ne serait pas un souci en soi, dans la mesure où, dans l'éventualité où le peuple refuserait cette reconnaissance à nous autres communautés évangéliques, par exemple, ce serait important de le savoir. Il vaut mieux ne pas être reconnu d'intérêt public parce que le peuple ne veut pas nous reconnaître que d'être reconnu, disons, par le système de l'État, alors qu'en réalité, la population n'y serait pas favorable. Donc nous, on a, de notre point de vue, tout intérêt à ce que cette reconnaissance soit quelque part en accord avec la perception générale de la population.
Donc concrètement, vous-même, vous allez voter non le 26 septembre ?
Alors non, je vais voter oui. Pourquoi ? Parce que le grand risque avec ce référendum, c'est que si le référendum passe, ça veut dire que si la loi n'est pas adoptée, le grand risque, c'est qu'on est reparti pour 10 ans, 15 ans, 20 ans de procédure. Déjà, premièrement, parce que l'énergie ne sera pas présente au niveau des députés, au niveau du Grand Conseil, pour se replonger dans un autre projet de loi. Et ça, c'est assez sûr. Et donc, on n'a pas d'alternative. Et donc, c'est bien là le problème. C'est que, d'ailleurs, l'idée des référendaires, c'est dans...
Donc, soyons clairs, hein, les référendaires, c'est l'UDC et le PLR. Ou les deux partis, en tout cas, qui
les
soutiennent...
Deux partis, en fait, ont lancé un référendum séparément, et c'est celui du PLR qui a abouti. Maintenant, leur point de vue est passablement identique, effectivement. Au niveau du PLR, c'est un peu plus contrasté, avec une minorité qui est en faveur de la loi, une majorité qui n'est pas en faveur de la loi, et encore une petite minorité qui est carrément pour la suppression de cet article constitutionnel, avec l'idée que l'État ne devrait reconnaître aucune communauté religieuse. Ce qui est le cas aussi, par exemple, du POP, le parti
Ouvrier Populaire. Donc là, finalement, il y a différents modèles de relations entre Église et État qui sont présents. Il y a d'un côté une perspective un peu monopolistique, hein, où on dit, finalement, du point de vue historique, il y a en tout cas deux entités, ce sont les réformés et les catholiques romains, et puis les autres, voilà. Puis il y aurait cette ouverture aux autres communautés minoritaires, et puis il y aurait des gens aussi qui, quelque part, veulent une laïcité assez marquée, une séparation nette, où finalement, par exemple, les réformés, les catholiques, ne bénéficieraient plus du prélèvement de l'impôt ecclésiastique.
Alors oui et non, c'est-à-dire que Neuchâtel est un canton laïque, la laïcité est mentionnée dans la Constitution, dans le préambule, c'est un canton laïque comme Genève, par exemple, mais qui suppose un partenariat de l'État avec les églises, jusqu'à un certain niveau. Donc ce n'est pas une laïcité à la française, c'est un autre type de laïcité nettement plus modérée. Mais ça ne signifie pas que l'État prélève un impôt pour les églises ou que l'État verse un montant aux églises tel un impôt qui serait redistribué aux églises. Pas du tout. La seule chose que l'État fait, c'est d'accorder une subvention pour le travail, disons, social et humain ou humanitaire des églises. Et les églises reconnues, par exemple l'église réformée du canton de Neuchâtel, touchent 700 000 francs par année. Alors on voit bien que 700 000 francs, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup pour assurer des postes pour des salaires, et c'est principalement destiné à des postes d'aumônerie. Donc c'est pas destiné à payer des prêtres ou des pasteurs, c'est simplement une subvention qui peut tomber, qui n'est pas garantie, qui peut être discutée, qui n'est pas non plus assurée du tout pour les autres communautés qui seraient reconnues. C'est à bien plaire. Par contre, ce serait une possibilité, mais toujours dans l'idée d'un travail social effectué par les communautés religieuses, un travail au profit de la société. Mais ce n'est pas dans l'idée de payer des pasteurs pour célébrer des cultes.
Alors, si on regarde d'un peu plus près ce à quoi les évangéliques pourraient s'attendre s'ils étaient reconnus d'intérêt public, concrètement, qu'est-ce que ça changerait dans le paysage, dans ces relations entre les évangéliques ou les communautés évangéliques membres de la FEN et l'État neuchâtelois ?
Dans la mesure où l'État examinerait le fonctionnement d'une communauté religieuse en s'assurant qu'elle est en accord avec l'État de droit, ça lui donne déjà une garantie en termes de crédibilité. Elle n'est pas considérée comme suspecte. Et ça, déjà, en soi, en termes d'image, c'est pas négligeable.
Ça, c'est quelque chose auquel vous tenez beaucoup.
Beaucoup. Disons que ça participe d'un ensemble, d'une volonté générale des évangéliques d'être impliqués dans la société. Et dans ce sens-là, effectivement, ça peut faciliter notre engagement. L'autre aspect positif, c'est que les évangéliques eux-mêmes, d'une certaine manière, auraient l'obligation de se prendre au sérieux, d'être rigoureux par rapport à leur propre fonctionnement. Déjà à l'interne d'une fédération évangélique, parce que ça suppose que chaque communauté doit aussi avoir un fonctionnement qui est crédible, du point de vue des finances, du point de vue peut-être de certaines attitudes extrêmes qui seraient contraires au droit, etc. etc.
Alors, donc vous qui êtes pasteur neuchâtelois, qui êtes aussi porte-parole de la FEN, vous soupçonnez les évangéliques de ne pas être toujours très rigoureux dans la gestion de leur communauté.
Ce qui va se passer, c'est que le canton de Neuchâtel a une cinquantaine de communautés ou d'églises évangéliques. Et chaque année, des nouveaux groupes apparaissent et d'autres disparaissent. Et tous ne vont pas pouvoir être membres de la fédération évangélique. Il faudra bien que ces groupes-là, d'une certaine manière, aient une certaine crédibilité. Alors, la liberté religieuse laisse la liberté à chacun de se réunir et de confesser une certaine foi. Mais si un groupe a des traits, par exemple, un peu extrémistes, ou des attitudes qui nous paraîtraient discutables, libre à nous, déjà à notre niveau, de ne pas les reconnaître au sein de notre fédération. Donc, ça permet déjà un certain tri au départ.
Une certaine régulation, finalement, au sein des communautés évangéliques.
Voilà, parce que ça suppose une responsabilité. Maintenant, les cas, là, je peux vous rassurer tout de suite, c'est que les cas extrêmes sont très peu fréquents, peut-être une situation en 10 ans. Mais cette situation-là, qui pourrait défrayer la chronique, qui pourrait poser problème, du coup, ne serait probablement pas, enfin, elle serait certainement détectée assez tôt.
Alors, vous avez parlé justement de régulation, hein, comme un des avantages de cette reconnaissance, régulation en interne. Vous avez aussi, au travers de cette reconnaissance d'intérêt public, certaines attentes, notamment par rapport au fait d'être exonéré d'impôts.
Alors, l'exonération d'impôts, de toute manière, en Suisse, elle est acquise pour toutes les communautés religieuses. C'est pas ça d'abord. On a une ou deux situations, par exemple, en cas de legs ou de vente, surtout de vente de bâtiments. Quand on vend un bâtiment, on va payer un impôt sur le bénéfice qui en résulte. Et pour les églises reconnues, cet impôt est à zéro. Pour les églises non reconnues, actuellement, il est à 50%. Et pour le reste de la population, cet impôt serait à 100%. En cas de bénéfice, lors d'une vente, et nous, ça nous est arrivé, on avait dû payer, par exemple, un impôt grosso modo de 10 000 francs. Un montant de 10 000 francs. Alors ça, ce ne serait plus le cas. Alors c'est des cas qui arrivent peu souvent, évidemment. Dans l'histoire d'une église locale, ça peut arriver une fois. Mais
là, il y a une sorte d'asymétrie, vous diriez de discrimination à l'endroit des évangéliques, si on compare la situation.
Il y a un traitement qui est différent, clairement, entre une communauté religieuse qui est reconnue d'intérêt public et celle qui n'est pas reconnue d'intérêt public, mais qui est simplement de l'ordre d'une association habituel en Suisse, exonéré. Alors exonéré, oui, mais avec quelques petites exceptions. D'autres avantages, ce serait par exemple d'être impliqué dans des commissions du Grand Conseil qui élaboreraient des lois en lien avec la question religieuse où les communautés d'intérêt public sont d'office sollicitées, par exemple.
Donc ça, ce serait un plus pour participer quelque part au débat et peut-être proposer certains aménagements de loi.
Alors c'est clairement un plus de contribuer pleinement au devenir d'une société, dans ce sens-là. Ce n'est pas nécessairement un plus pour la communauté religieuse en question, c'est un plus, tout simplement, d'être un partenaire à part entière. On peut imaginer aussi plus de liberté pour les communes d'inviter un pasteur d'une communauté évangélique, d'une église évangélique, lors d'une célébration du 1er août, d'une assermentation, des événements comme ceux-là. Ce serait tout à fait imaginable. Alors qu'aujourd'hui, ça paraît quasiment impossible.
Il y a aussi un élément qui revient souvent, en tout cas dans vos prises de position, c'est le fait de participer aux aumôneries d'hôpitaux et de prisons. Ça, ce serait quelque chose dont vous pourriez bénéficier au travers de ce processus de reconnaissance d'intérêt public?
Oui, alors un pasteur qui veut visiter un détenu n'aura pas de problème à le rencontrer, ou un patient à l'hôpital. Par contre, le fait d'être dans le système d'aumônerie, comme les aumôniers réformés catholiques ou catholiques chrétiens, auraient l'avantage d'avoir un lieu commun, par exemple, où peuvent se dérouler les entretiens, auraient l'avantage d'une reconnaissance plus simple, enfin d'une admission plus simple dans les lieux de détention ou dans les hôpitaux. Disons que ça passerait plus sous l'angle d'une visite privée, mais ça passerait sous l'angle d'une visite officielle, si on peut dire. Il y aurait un petit avantage, certainement. Alors, ce n'est pas un immense avantage, encore une fois, parce que, de nouveau, même l'aumônier catholique ne va pas imposer sa visite à tous les patients qui éventuellement sont de confession catholique. De toute manière, il faut bien que le patient le souhaite. Mais en termes d'organisation, ça peut certainement simplifier les choses. Ça peut permettre peut-être une répartition dans certains cas du travail, parce que certains patients ou prisonniers demanderont un aumônier, quelle que soit son origine. Donc ça permettrait aussi un travail peut-être mieux réparti. Et voilà, donc c'est pas fondamental, c'est pas une question de vie ou de mort pour la destinée des églises évangéliques, mais symboliquement ça peut représenter quelque chose et ça peut simplement signifier être partenaire à part entière.
Alors, ce qui est surprenant, c'est que finalement, tous les évangéliques ne sont pas derrière la FEN pour solliciter cette reconnaissance d'intérêt public.
Oui, c'est ça. Moi, j'ai été étonné que l'immense majorité des églises évangéliques du canton de Neuchâtel sont en faveur de cette reconnaissance. Mais c'est vrai qu'en particulier, les églises mennonites ne sont pas en faveur.
Donc les églises mennonites, ce sont de vieilles églises évangéliques issues de la Réforme du XVIe siècle et qui finalement ont comme trait caractéristique une vision très nette de la séparation de l'Église et de l'État, et notamment au travers de leur orientation pacifiste.
Alors c'était effectivement des chrétiens qui étaient qui subissaient certaines persécutions dans le canton de Berne. Et lorsque Neuchâtel est devenu prussien en 1707, donc sous l'égide du roi de Prusse, une principauté prussienne, ces réfugiés mennonites du canton de Berne, en partie, sont venus s'établir dans le canton de Neuchâtel et ont défriché des terres et ont connu un certain succès, mais ne participaient pas au culte réformé d'une part, ne baptisaient pas leurs enfants, effectivement ne portaient pas les armes. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que la population était vraiment remontée contre ces quelques familles qui étaient arrivées de Suisse allemande. Et c'est le roi de Prusse lui-même qui va les défendre en disant « Mais vous ne pouvez pas, ce sont des frères en Christ, des chrétiens comme vous, je n'accepterai pas cette forme de persécution. » Donc, le roi de Prusse les a défendus, mais même dans le canton de Neuchâtel, alors l'histoire elle est bien connue par exemple dans les montagnes jurassiennes, mais même dans le canton de Neuchâtel reste quand même cette idée de séparation entre l'État et l'Église de façon absolue. Maintenant, les Mennonites du canton de Neuchâtel, c'est une seule communauté, environ 200 personnes. Donc, c'est pas tout à fait représentatif, mais c'est intéressant et je comprends leur point de vue. Et libre à eux de ne pas être reconnus, le cas échéant.
Je vous propose maintenant, Olivier Favre, d'écouter un gospel pour nous ouvrir à autre chose. Oh! Brothers and sisters, I want to welcome you back to life. Back to the one that can make your next chapter your best chapter. Hallelujah. How can it be that you love the most unlovable part of me? Of me. How could you see your life was the only gift I'll ever need to be free? It's amazing.
Father. I don't wanna love nobody, love. nobody but you.
I really mean it this time.
I don't wanna love nobody but you.
Jesus.
I don't wanna love nobody but you. I don't wanna love nobody, love nobody but you.
Olivier Favre, vous êtes le porte-parole de la Fédération évangélique neuchâteloise, la FEN. On vous reçoit aujourd'hui pour parler de cette votation du 26 septembre dans votre canton autour de la loi sur la reconnaissance des communautés religieuses. Alors, votre canton n'est pas le seul à envisager une telle démarche. Il se passe des choses dans le canton de Vaud, à ce niveau-là. Il se passe aussi des choses dans le canton de Bâle-Ville, par exemple, où deux communautés musulmanes ont été reconnues. Comment est-ce que vous appréhendez ce qui est en train de se passer en Suisse aujourd'hui par rapport aux communautés religieuses minoritaires ?
C'est une volonté des autorités de reconnaître le fait de la diversité religieuse actuelle et aussi le fait d'une certaine baisse, enfin une baisse certaine de la pratique, une baisse aussi de l'appartenance religieuse aux églises. Donc on a une refonte complète en une cinquantaine d'années du paysage religieux en Suisse, comme ailleurs en Europe. La Suisse ne fait pas exception. Dans le canton de Neuchâtel, par exemple, on aura environ un quart de la population qui se réclame du catholicisme, un quart des églises réformées, et puis la moitié de la population qui n'a plus d'appartenance qui ne se reconnaît d'aucune appartenance religieuse. Et cette nouvelle réalité, elle est accompagnée aussi de l'émergence de nouvelles communautés qui, elles, alors, ne remplissent pas le vide existant, mais quand même sont des minorités significatives. Alors, on a d'un côté les musulmans dans le canton de Neuchâtel, environ 5000. Bon, il faut noter tout de suite que ces 5000 sont aussi beaucoup des migrants, souvent, ne sont pas particulièrement pratiquants. Et puis de l'autre, entre 5 et 6 000 évangéliques, qui eux sont très pratiquants et appartiennent à une cinquantaine de groupes ou d'églises évangéliques. Et ça, ce scénario, on va le retrouver à Bâle-Ville, dans le canton de Vaud et ailleurs aussi. Et c'est bien la raison des autorités étant fédérales, bien qu'elles ne se mêlent pas trop des situations cantonales, mais elles ont débloqué beaucoup de moyens financiers pour mener des études sur cette nouvelle donne du paysage religieux en Suisse. Et puis, on en a aussi, effectivement, les retombées dans les cantons. Et ce qui est assez intéressant, c'est que la plupart du temps, les églises reconnues sont favorables à cette reconnaissance d'autres communautés religieuses. Et mon sentiment, c'est que c'est pas toujours dit, mais probablement que dans la mesure où d'autres communautés religieuses sont aussi reconnues, elles pourront maintenir leur propre reconnaissance. Parce que il existe aussi la tendance inverse, ce serait de ne reconnaître plus aucune communauté religieuse. Et on imagine tout à fait ce qui se passerait si c'était le cas. Ce serait une perte du soutien financier de par l'État et la lente disparition des églises historiques. Donc
là, vous soupçonnez quelque part, catholiques et réformés, de pousser à la reconnaissance d'intérêt public de façon très stratégique pour maintenir leurs acquis.
Alors, c'est pas un soupçon général. Je pense qu'il y a différentes motivations, mais c'en est une. L'autre motivation, je pense qu'elle est aussi tout simplement, comment dire, un sens de l'ouverture face à l'autre, face à l'étranger, face à d'autres formes d'expression. On est quand même dans une société beaucoup plus ouverte que par le passé, qui connaissait ce clivage entre catholiques et réformés. Ça s'est terminé. On n'a plus une seule région, probablement en Suisse, où ce clivage serait encore autant marqué qu'autrefois, où catholiques et réformés ne pouvaient pas se marier quasiment. C'était quasiment impossible, vu la pression sociale ou de leur famille. Tout ça, c'est fini. Et l'étape de plus, c'est que les églises reconnues, effectivement, diront que c'est important de reconnaître toutes les communautés religieuses, qu'elles soient par souci de cohérence. Donc je pense qu'il y a à la fois un souci de cohérence d'un côté, mais aussi peut-être une petite stratégie pour maintenir quand même les acquis.
Alors, par rapport au canton de Neuchâtel et à cette votation du 26 septembre, rappelons-le, sur la reconnaissance d'intérêt public des communautés religieuses, si la loi est acceptée par le peuple neuchâtelois, comment est-ce que vous voyez l'avenir ?
Alors, dans ce cas-là, on devra attendre l'élaboration d'un règlement. Ça relève cette fois-ci plus du législatif, mais de l'exécutif, donc du Conseil d'État qui devra élaborer un règlement. Certainement que ce règlement, il sera aussi élaboré en concertation avec les communautés elles-mêmes qui demandent en fait la reconnaissance. Et je peux penser que ça avancera assez vite. Si la votation confirme cette nouvelle loi, les choses devraient aller assez vite. Et puis après, où ça prendra un peu plus de temps, c'est pour examiner chaque candidature. Ça, on peut bien le comprendre. On sait déjà qu'un des critères va être l'ancienneté ou la taille de la communauté religieuse.
Bon, du point de vue de l'ancienneté, les évangéliques sont bientôt depuis 200 ans dans le canton de Neuchâtel.
Alors, comme je disais tout à l'heure, depuis 1707, 1710,
alors oui, ça fait encore bien plus.
Pour les anabaptistes, et puis pour d'autres, effectivement, c'est bien 150 années avec les réveils évangéliques au sein du protestantisme. Donc l'établissement est bien ancré. On pense à l'armée du salut aussi, qui est largement reconnue, les églises libres, etc. Donc là, je ne vois pas de difficulté en termes de reconnaissance. On verra aussi, effectivement, qu'est-ce qui est éventuellement encore précisé dans le règlement, mais la loi est déjà assez complète et à ce jour, elle nous donne entière satisfaction. Donc, on n'est pas trop inquiet de ce côté-là.
Et puis, si la loi est refusée ce 26 septembre, comment est-ce que vous voyez l'avenir ?
Alors, si elle est refusée, on peut espérer que le monde politique ne se démobilise pas trop vite, que cette loi soit adaptée. Mais ça ne sera pas facile d'avoir une majorité, parce qu'il faut bien dire que le canton de Neuchâtel, contrairement à d'autres cantons, a vraiment une répartition gauche-droite très équilibrée. Donc pour obtenir une majorité, là en l'occurrence c'était essentiellement la gauche qui était pour cette reconnaissance, ce n'est pas simple. Et certains qui ont travaillé sur ce projet ne sont aujourd'hui plus députés, donc il faut regagner d'autres députés. Donc c'est pas, ce serait assez ennuyeux.
C'est un processus qui risque de s'enliser.
Voilà, c'est ce que craint effectivement.
Si les évangéliques étaient mis au bénéfice de cette reconnaissance d'intérêt public, est-ce que, à votre sens, ils seraient de meilleurs témoins du Christ ?
Oui et non. Est-ce qu'on est meilleurs témoins parce qu'on est moins persécuté, parce qu'on est plus apprécié ? Pas nécessairement, bien au contraire. On sait bien que face à l'hostilité, on peut au contraire faire preuve d'un témoignage exemplaire. Maintenant, ce n'est pas tellement d'être meilleur témoin, c'est plutôt de pouvoir travailler encore dans de meilleures conditions. Et surtout que, d'une certaine façon, de jouer aussi le jeu social avec l'ensemble de la population en étant une minorité qui joue son rôle, comment le dire, différemment. Je ne pense pas que notre vocation soit d'imposer nos points de vue ou notre perspective, nos valeurs chrétiennes ou chrétiennes évangéliques dans la société d'aujourd'hui. Par contre, défendre notre propre identité parmi d'autres identités, parmi une pluralité de minorités, ça me paraît important. Et pour être une minorité à part entière dans la société d'aujourd'hui, ce type de reconnaissance nous donne une validité. Donc oui, je pense que c'est un avantage essentiellement symbolique, mais qui peut avoir son importance, encore une fois, dans certains cas bien précis, mais surtout dans l'ensemble, de notre façon. Je vois par exemple encore bien souvent des pasteurs qui ont un sentiment mitigé face aux médias, qui ont l'impression que les médias sont de facto, les médias séculiers, défavorables aux chrétiens, aux évangéliques. Or, ce n'est pas le cas. Mais cette idée d'une certaine fermeture, elle est innée chez beaucoup d'évangéliques. Et je pense qu'on doit, par ces processus, ces tentatives de reconnaissance, sortir aussi quelque part de la marginalité qui a été longtemps la nôtre, et reprendre une place plus centrale dans la société en jouant pleinement notre rôle, ça me paraît vraiment essentiel.
Olivier Favre, je rappelle que vous êtes le porte-parole de la Fédération évangélique neuchâteloise, la FEN, et que vous êtes venu nous parler de la position de la FEN par rapport à la votation du 26 septembre sur la reconnaissance des communautés religieuses dans le cadre du canton de Neuchâtel. Merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition d'Un air d'actu sur Radio Air, la radio musicale chrétienne. Si vous souhaitez réécouter ce podcast ou d'autres de l'émission Un air d'actu, vous pouvez nous retrouver sur le site radio-air.ch. Au revoir Olivier Favre.
Merci, au revoir, merci.
Et à bientôt.
Un air d'actu avec Serge Carrel.